La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des entrepreneurs, des initiatives, des parcours de vie. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et en plus, elles sont françaises. On en parle ensemble avec vous, Emmanuel Duteil. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes peut-être en vacances là. Vous êtes peut-être en vacances en France, ce lendemain de ce grand week-end du 14 juillet. Parmi ceux qui en profitent, les Gîtes de France, ils sont quasi pleins pour cet été. On va aller les visiter et on en parle avec la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France jusqu'à 14h.
À la une, se déplacer pendant les vacances en faisant du covoiturage. Une start-up s'est lancée sur le marché des territoires peu denses. Elle s'appelle Ecov et son président sera avec nous d'ici quelques minutes.
Depuis 1973, le PAL dans l'Allier met en avant les animaux. Parcs zoologiques, puis finalement maintenant mini-parcs d'attractions. Ils drainent jusqu'à 650 000 visiteurs par an. Le PAL, ce sera notre saga du jour, vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de la France bouge et CCI France ont retenu My Ellie, un bijou connecté anti-agression. Le pitch va-t-il vous convaincre? La réponse vers 13h45.
Et puis en fin d'émission, demain un emploi. On a aujourd'hui 20 postes pour vous. Où ça? Réponse, eh bien vers 13h50.
C'est ça, la France bouge. Bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Ah là là, je ne sais pas si c'est parce qu'il nous reste plus qu'une semaine, mais la France bouge part encore en vacances en ce lundi jusqu'à
14h.
Ça nous inspire, oui. Avec notre grande témoin du jour.
Bonjour Solange Escure.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Il y a 52 000 gîtes en fraude en France, répartis sur tout le territoire. Les Français ont décidé de privilégier la France pour cet été, à cause notamment de la crise sanitaire. Comment Solange Escure se présente cet été du côté des Gîtes de France ?
Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Cet été se présente très, très bien, puisque nous avons des taux d'occupation à date qui sont records, et notamment des taux d'occupation qui sont déjà supérieurs à ceux de l'été 2019.
Alors, attendez, il y a un mot que vous avez utilisé là, record.
Record, record.
C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'y a jamais eu autant de monde qu'aujourd'hui dans les Gîtes de France en plein été en France.
Tout à fait.
On peut dire comme ça.
Oui, oui, c'est record, c'est historique, oui.
Historique, mais vous parlez, vous pouvez nous donner un chiffre ?
Oui, on a des taux d'occupation à date qui n'ont jamais été atteints sur l'Hexagone. Ce n'est pas tout à fait le cas sur les DOM. Donc on est, pour le mois de juillet par exemple, il reste encore quelques jours avant la fin du mois de juillet, on a un taux d'occupation à près de 80% en moyenne sur le mois de juillet. Et on est en avance par rapport à 2019. On a 14 points d'avance, oui.
Ça signifie que les Français ont réservé beaucoup plus tôt que d'habitude, puisque...
Oui, les Français ont réservé dès le mois de mai, dès que le gouvernement a annoncé que l'on pourrait partir en vacances. Donc effectivement, des réservations qui se sont faites beaucoup plus tôt. Donc des Français qui voulaient avoir le choix de leur hébergement et donc qui ont afflué sur notre site gîtesdefrance.com très très tôt.
Là, si certains de nos auditeurs à la maison ou en voiture sont en train de se dire « Tiens, les Gîtes de France, c'est pas mal comme idée », grosso modo, vaut mieux qu'ils restent avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il n'y a plus rien de libre, c'est ça ?
Non, mais il reste encore quelques petits hébergements. Et puis, de toute façon, il y a des nouveaux hébergements, puisque cette année, nous avons aussi des records en termes de nouveaux hébergements. Beaucoup de porteurs de projets, de personnes qui veulent rejoindre notre marque.
Qui sont ces gens ? C'est des gens qui ont changé de vie à l'aune des confinements, qui ont quitté les grandes villes, qui sont partis créer leur Gîte de France ?
Alors, il y a à la fois des propriétaires de maisons qui veulent rénover un patrimoine bâti et accueillir des vacanciers. Mais il y a effectivement quelques personnes qui ont aussi décidé d'aller vivre au vert, de quitter les grandes villes pour aller vivre au vert et qui effectivement ont eu un projet... d'hébergement touristique. Donc oui, mais beaucoup, beaucoup de nouveaux porteurs de projets.
Alors, une fois qu'on s'est dit, tiens, on va aller passer un petit séjour dans des Gîtes de France, quelles ont été les régions les plus plébiscitées ? On va où ? On veut vraiment partir des grandes villes et aller le plus loin possible ?
Alors, on va partout, puisqu'en fait, avec un tel taux d'occupation moyen, ça veut dire que cette année, on va avoir une répartition homogène des vacanciers sur l'ensemble du territoire. Donc effectivement, traditionnellement, on va sur la côte atlantique, la Bretagne, la Normandie, la région PACA, l'Occitanie. Mais cette année, en fait, que ce soit à la campagne, à la mer ou à la montagne, on a le même taux d'occupation.
Alors vous nous avez déjà un petit peu répondu, il n'y a plus de place semble-t-il de ce que vous nous avez dit, mais là ces derniers jours, il y a certains pays, alors c'est même vrai un petit peu pour la France, mais certains pays qui ferment un peu leur destination, on peut citer par exemple l'Espagne, on peut citer le Portugal. Sûrement qu'il y a quand même quelques Français qui avaient prévu d'aller là-bas, qui se disent « bon, bah, s'ils nous disent que c'est pas recommandé, on va rester en France ». Vous avez eu là encore ces derniers jours, du coup, le standard qui a chauffé parce qu'on vous a dit « allez, trouvez-moi un petit truc là ».
Oui, effectivement, il y a des demandes de dernière minute. Alors, comme chaque année, mais encore plus cette année. Et le hasard fait qu'on a encore quelques agréments de nouveaux hébergements qui permettent de satisfaire les derniers vacanciers.
Alors, on nous conseille donc de ne pas aller en Espagne et au Portugal. Est-ce que finalement, on profite de plus en plus du retour à la nature ? C'est-à-dire qu'on va choisir des endroits un peu perdus ?
Oui. Effectivement, Gîtes de France, en fait, porte des valeurs depuis l'origine qui sont redevenues avec cette crise sanitaire au goût du jour. Donc, que ce soit l'humain, l'accueil, le goût des territoires, la valorisation des territoires avec également notre gastronomie, parce que nos propriétaires, ils vont faire découvrir aux vacanciers ces terroirs, ces produits, ces fromages, ou aller acheter des œufs, ou aller acheter divers produits. Donc oui, je pense qu'il y a ce retour aux choses simples.
Vous diriez que vous êtes revenu à la mode ?
Alors, je pense que nous sommes plus que jamais à la mode parce qu'en fait, ça fait très longtemps que chez Gîtes de France, on fait du tourisme durable. N'oublions pas que lorsqu'on rénove un patrimoine bâti, c'est tout un savoir-faire, il y a l'utilisation de matériaux et autres. On a été les premiers à créer des éco-gîtes. Et puis, il y a aussi le slow tourisme. Eh bien, chez Gîtes de France, on fait du slow tourisme depuis toujours.
Oui, vous dites que ça existe depuis toujours. Ça fait longtemps que vous êtes sur ce créneau-là. Mais la crise vous a fortement aidé pour en arriver là. Là, on a un taux d'occupation à plus de 80%. Merci la crise.
Alors, si vous voulez, je dirais merci au travail que l'on fait depuis toujours.
Oui, mais ça s'est accéléré. On a envie de rester en France cette année.
Elisabeth aussi a raison. C'est que j'imagine... vous avez de nouveaux publics, parce qu'un public qui traditionnellement part un petit peu à l'étranger, qui ne va pas obligatoirement dans les Gîtes de France, mais là qui se dit, je veux du bon air, je veux quand même une grande maison parce que je veux y aller soit en famille, soit avec des copains, et du coup se disent, bah hey, c'est les Gîtes de France qui vont me faire ça.
Oui, tout à fait, parce que nous sommes en phase. Nous sommes en phase parce que depuis toujours, on fait des hébergements de qualité, puisque ça pour nous, c'est très très important. Et puis parce que depuis toujours, nous sommes sur un accueil personnalisé par le propriétaire. Gîtes de France, ce n'est pas une boîte à clé. Il y a toute cette relation humaine. Il y a toute cette relation humaine qui fait que le client va avoir des vacances avec un petit plus, une petite différence.
Ce sera quoi le petit plus, à part l'accueil ?
Le petit plus, c'est une aventure qu'il va vivre tout au long de ses vacances. Avec la découverte d'un territoire, avec toutes les activités qu'il peut faire. Ça va être par exemple... aller tout simplement observer la traite des vaches, des choses toutes simples en fait,
pour les enfants et pour beaucoup d'adultes quand on vit dans les grandes villes, et pas un truc qu'on voit tous les jours.
Qu'est-ce qui vous différencie de la maison d'hôte ?
Alors, le gîte, si vous voulez, c'est la maison qu'on va louer où on va être totalement indépendant, alors que la maison d'hôte, c'est la maison, le propriétaire qui va accueillir dans sa chambre d'hôte des clients. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a l'indépendance pour le gîte et la chambre d'hôte, c'est l'accueil chez le propriétaire.
Mais tout en ayant cette indépendance, il peut jouir justement de pouvoir assister à la traite des vaches. On va bénéficier de toute la connaissance du propriétaire de l'endroit, c'est ça en gros ?
Tout à fait. Non seulement de sa connaissance de l'endroit, mais surtout son envie de la faire partager et de permettre à ses vacanciers, à ses hôtes de découvrir tout ce que peuvent offrir nos territoires.
Selon Gescure, vous nous donnez envie, là. Allez, votre petit coup de cœur. C'est quoi pour vous le meilleur gîte de France, vous, en tant que directrice générale de la Fédération ?
Vous allez en fâcher 51 999,
allez, donnez-nous un petit...
Je vais vous dire simplement, la semaine dernière, j'étais en vacances, dans un gîte.
Ah.
Et j'ai eu un accueil extraordinaire, non pas parce que j'occupe... ses fonctions, mais tout simplement parce que le propriétaire, il fait ça avec chacun de ses clients.
C'était où alors cette petite perle ?
C'était dans le sud-ouest. Et donc, par exemple, nous avons partagé un apéritif dînatoire et on a pu échanger sur son métier, métier d'agriculteur.
Quel gîte dans le sud-ouest? Donnez-nous, mais si, c'est important.
Ah, donnez-nous le coin, la
le
ville.
Coin, c'était
la ville.
Un gîte à Beauville.
Beauville, dans le sud-ouest. Alors, c'est noté. Donc, on va continuer à parler de ces gîtes de France hein, qui fleurissent partout en France. Et en plus de ça, c'est un été record. Hein, c'est ce que vous nous dites, Solange Escure. Vous êtes la directrice générale de la Fédération des gîtes de France. Et vous restez avec nous. Claire.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ah, elle bouge, elle est en vacances, cette France, c'est ce qu'on entend depuis le début de cette émission. Grâce à vous, Solange Escure, vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Et vous aussi, vous nous parlez d'un été record. On enchaîne là en ce moment, Elisabeth, les émissions avec
mais
des oui. gens qui
mais
nous disent «
Mais ça marche bien en France !»
Saison record.
Et oui, on le montre chaque jour dans la France bouge. Ça marche bien, les Français sont en vacances en France et ça marche pour tous les secteurs d'activité liés au tourisme. Et nous en sommes ravis et très fiers à la France bouge. Alors, sillonner la France, faire des haltes dans des gîtes, c'est bien. Mais c'est encore mieux si on faisait du covoiturage dédié au territoire. C'est ce que vous avez mis en place, Thomas Matagne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'ECOV. C'est un opérateur de mobilité qui est nantais. Il existe depuis fin 2014. Et vous, concrètement, vous déployez des lignes de covoiturage dans les territoires peu denses hein, pour des trajets du quotidien. Ça marche pour les trajets domicile-travail, mais pas que. Et c'est ça qui nous a donné envie de vous inviter aujourd'hui dans la France bouge. Ce sont les collectivités qui vous demandent de déployer des lignes de covoiturage. Ça fonctionne comment ?
Exactement. On déploie des lignes de covoiturage pour le compte des collectivités, comme elles déploient dans les centres-villes des lignes de bus. Concrètement, ce sont des arrêts de covoiturage, comme des arrêts de bus, dans ces territoires où des passagers vont, font une demande de covoiturage et en quelques minutes, on leur trouve un conducteur. Le conducteur les embarque, il y a un échange de partage de code qui permet de partager des frais, d'assurer la sécurité. Ils font le trajet ensemble. Et comme ça, le conducteur et le passager partagent un bout de trajet ensemble sans avoir aucune contrainte.
Mais sur quel trajet, par exemple, pour que ce soit encore plus clair pour nous ? Donnez-nous un exemple de trajet.
Il y a plein de cas de figure différents. Ça dépend vraiment des zones que les collectivités choisissent de couvrir. Ça peut être des liaisons plutôt à caractère de loisirs.
Un lieu dit vers une petite ville à côté,
exactement,
un village.
Exactement, par exemple. Enfin, alors, autour de Chambéry, par exemple, il y a des lignes de covoiturage qui permettent de relier la station de la Féclaze en hiver ou en été pour les randonnées. Mais dans des configurations très différentes, on va faire des liaisons entre, par exemple, Bourgoin-Jallieu et Lyon, où là, c'est un axe majeur, une autoroute. Et là, on vise plutôt des gens qui sont sur des trajets domicile-travail, mais pas uniquement.
Comment on sait que ça existe d'une certaine manière ? Parce que quand on a préparé cette interview avec Elisabeth et les équipes de la France bouge, c'est vraiment la question qui m'est venue, parce qu'il faut que vous ayez le plus de voitures possible, parce qu'il n'y a pas grand monde qui passe parfois sur ces routes, donc il faut être sûr de pouvoir en avoir. Comment on arrive
pour l'aller,
à avoir,
le retour,
pour l'aller, pour le retour, comment on est sûr d'avoir suffisamment de voitures ? Comment vous faites connaître ECOV ? Parce que vous travaillez en marque blanche, hein, c'est ça ? Vous
c'est
installez
ça.
Tout pour les communautés de communes ou pour les régions ou autres, quoi.
Exactement. Il y a des marques locales qui sont souvent les mêmes que les marques des transports collectifs locaux. Donc on va commencer par étudier le territoire, regarder les flux de voitures, savoir quel est le potentiel qu'il y a pour relier des points du territoire. Puis ensuite, on va organiser l'ensemble du dispositif. Donc on va mettre en place les arrêts de covoiturage qui sont physiques, donc qui se voient avec des panneaux lumineux qui sont très visibles de la part des conducteurs. Et puis on va avoir toute une construction en fait, du service avec de la communication, du marketing à une échelle locale. Donc les gens ne nous connaissent pas en global, mais par contre à des échelles très locales, ils connaissent les dispositifs qui ont un nom local.
Vous avez
combien
de lignes comme ça aujourd'hui ? Vous en exploitez combien, si on peut le dire ainsi ?
On a une quinzaine de territoires sur lesquels on a une cinquantaine de lignes au total dans différentes configurations pilotes.
Thomas Matagne, c'est vraiment utilisé là en 7 ans. Est-ce que c'est très utilisé ? Vous avez un noyau d'habitués et le reste, il faut encore se faire connaître. Comment ça fonctionne en ce moment ?
Oui, c'est des changements de comportement et clairement, la crise Covid ne nous a pas aidés en l'occurrence parce qu'évidemment... On a arrêté les lignes pendant les premiers confinements, après on a rouvert, mais les gens ont télétravaillé, etc. Donc là, on est revenu à un niveau d'usage qui est assez comparable à ce qu'il y avait en situation pré-Covid, avec des taux d'usage...
Ce sont les mêmes ?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toujours un noyau dur qui reste, et parce qu'il continue les mêmes trajets. Et puis on a un changement de population aussi, avec des gens qui ont des nouveaux besoins de mobilité.
Mais parce qu'en plus, ça répond à la loi d'une certaine manière, puisque aujourd'hui, toutes les collectivités doivent mettre en place des solutions pour essayer de désenclaver les territoires. Si en plus, par chance, les gens utilisent là-bas des voitures électriques, c'est encore mieux pour répondre aux ambitions écologiques. Mais vous avez un boulevard malgré tout devant vous, parce que c'est vraiment une solution qui est moins coûteuse que de mettre un bus ou que de mettre ce genre de solutions pour les gens.
Oui, on est dans des territoires où il n'y en a pas, en fait, parce que la densité de population est trop faible.
Où il n'y en a plus, malheureusement.
Où il n'y en a plus, il y a plein de facteurs. Mais en fait, il faut avoir en tête qu'il y a 8 km sur 10 qui est fait en voiture en France. Donc en fait, l'immense majorité des trajets sont faits en voiture, sauf que la voiture est occupée à peu près à 1,3 personnes par véhicule. Donc il y a des sièges libres, il y en a partout. Il y en a dans tous les territoires, il y a des flux importants de voitures. Ces sièges libres, c'est une vraie richesse. En France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a des sièges libres et c'est un vrai potentiel pour ces territoires.
Pour cet été, comment vous percevez la demande là? Ça se passe comment en ce moment?
Ben là, on a un retour en fait, de l'usage progressif. Alors, on espère que la nouvelle vague ne va pas ralentir la dynamique, mais sur certains réseaux, on a deux fois plus d'usage qu'en juin 2020.
Lesquels, par exemple?
Du côté de Chambéry, par exemple, on est revenu à des niveaux qui sont très élevés. Mais sur d'autres, on n'y est pas encore. Donc c'est très très variable en fonction des territoires et de l'impact de la crise sur les territoires.
Solange Escure, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Vous êtes notre grand témoin depuis le début de cette émission. Dans les zones rurales, c'est là où on trouve quand même un paquet de vos gîtes. La mobilité, justement, reste limitée. Des solutions comme ça, c'est quand même pratique, mais y compris pour des vacanciers pour laisser la voiture un peu ou pour quand on vient en groupe, chacun aller de son côté sans tous prendre une voiture?
Oui, tout à fait. C'est vrai que nos territoires ruraux sont parfois oubliés. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir une ligne de métro, un bus ou un tram à proximité. Donc oui, je pense que c'est très utile et de toute façon, c'est du devoir des collectivités d'assurer ce service. Mais effectivement, je pense que ça peut être aussi une façon de découvrir en partageant effectivement un bout de chemin avec quelqu'un qui vit dans la région. Donc oui, c'est intéressant.
Une fois arrivé sur un gîte, est-ce que le propriétaire peut prêter sa voiture ou encore, je ne sais pas, ou servir de guide pour les alentours, pour sortir du gîte? En gros, est-ce que les vacanciers circulent loin de leur gîte ou ils restent sur place et n'y bougent plus?
Alors, on a tous les comportements, en fait. On sait qu'il y a beaucoup de clients qui se reposent, qui ont vraiment besoin de faire le vide, surtout sur cette période, et d'autres qui vont rayonner 30 km, 40, 60, 100 km autour de leur hébergement. Donc, on a tous les comportements, en fait. Ceux qui découvrent.
Et ceux qui ont envie de se poser, de rester au vert. Et...
Exactement.
Et de ne rien faire.
Thomas Matagne, je rappelle que vous êtes le président d'ECOV. Hein, c'est un opérateur de mobilité, notamment pour les territoires pedants. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne l'avez pas fait que pour répondre à un besoin économique. C'est-à-dire que c'était un peu votre motivation personnelle de vous dire, mais bon sang, vous rappeliez là, 1,3 personnes par voiture, vous disiez mais c'est impossible ce truc. Vous avez finalement créé une activité économique qui vous permet de gagner un peu d'argent, mais qui vous permet aussi de répondre à vos aspirations?
Oui, absolument. Enfin, moi, j'ai fait des études en sciences et en politique appliquée à l'environnement. J'ai travaillé à la région de France sur ces sujets, au ministère de l'écologie. Et en fait, la transition écologique, tout le monde veut la faire. La question, c'est comment on fait, concrètement. Et on part d'un État qui est celui qu'on a construit depuis un siècle, en l'occurrence un système voiture, un système bagnole, on l'appelle comme on veut, où les gens sont devenus dépendants et il est sous-utilisé, utilisé de manière inappropriée. Et c'est très très bien d'investir dans des technologies, le véhicule électrique, le véhicule hydrogène, etc. On y met beaucoup d'argent. Mais pourtant, si on optimisait déjà l'usage de l'existant, on pourrait avoir des gains absolument considérables.
Merci à vous en tout cas Thomas Matagne, vous êtes le président d'ECOV, hein, cet opérateur de mobilité qui déploie des lignes de covoiturage dans des territoires, je veux dire, un peu perdus, hein, dire pas... Non mais ça vous dites
Pedance. C'est en dehors des centres-villes, fait beaucoup de territoires.
Ça fait énormément de territoires, merci à vous.
Mais dans lequel il y a des endroits magnifiques et
tout
on devrait
fait.
Tous y aller un peu plus.
Des joyaux de notre pays, merci à vous d'être venu dans la France Bouge.
Et Solange Escure, la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France, on vous garde avec nous, vous êtes notre grande témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, chaque jour on vous le dit, mais le pire c'est que c'est vrai. On est vraiment ravis avec Elisabeth Assayag, là de vous accueillir autour de la table de la France bouge, hein, chaque jour, du lundi au vendredi.
Et vous avez été chaque fois plus nombreux cette année,
ça,
hein,
c'est
important
vrai que ça fait
de
un
le dire.
On l'a pas dit, 320 000 en moyenne, plus 13%, 20 000 en plus sur la dernière vague.
20 000
c'est
en plus, auditeurs, hein. Merci à vous qui nous écoutez chaque jour de 13h à 14h. Vous avez été de plus en plus nombreux depuis
c'est
le début de la
saison. C'est un peu
comme
les Gîtes de France, on est presque
dernière.
Saison record, on est presque plein.
On est presque en saison record.
En tout cas, on parle de tout cela avec vous, Solange Escure, la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Mais nous, vous pouvez quand même encore un peu augmenter, on a de la place. Hein.
Chaque jour dans la France bouge, Solange Escure, on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, je vous propose de partir dans l'Allier, près de Moulins. Depuis 1973, un parc zoologique est présent sur place. C'est maintenant un mini-parc d'attractions qui draine jusqu'à 650 000 visiteurs chaque année. Bonjour Arnaud Bennett.
Bonjour.
Vous êtes le président du PAL. Vous avez repris ce parc en 1990, mais tout a commencé en 1973, quand votre beau-père a lancé un concept très novateur de parc zoologique. Comment est venue cette idée ?
Effectivement, à la suite d'un accident de voiture et d'un séjour assez long à l'hôpital, sur un coup de tête, il aimait bien les animaux et il a convaincu son père qui était exploitant agricole de monter, de créer sur des terrains familiaux, des terrains agricoles, d'élevage et de culture, un parc zoologique à l'époque effectivement avec un certain nombre de nouveautés, c'est-à-dire plutôt des grands espaces que des cages, un train qui emmenait les gens de l'entrée du parc au cœur du parc. Des grandes aires de jeu, etc. Donc déjà, on introduisait un élément ludique.
Parce que c'est vrai que chez vous, il n'y a quasiment pas de cage, hein, encore aujourd'hui. Mais il a fallu mettre de l'argent au démarrage. Je crois que pour ça, il a même vendu l'usine d'aliments pour bétail, c'est ça ?
Exactement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas du tout de cage, il n'y a que des grands espaces. Et effectivement, à l'époque, il avait dû, donc il s'était lancé là-dedans en disant « Maintenant, je m'amuse, après l'épreuve que je viens de traverser. » Donc il avait vendu sa grosse usine d'alimentation pour bétail qui était située à Moulins dans l'Allier. Il l'a vendu à un groupe agroalimentaire français pour pouvoir réinvestir et créer ce parc.
Donc chez vous, si j'ai bien compris, on est plus sur un mode safari, hein, parce que vous avez dit qu'il y a très peu d'animaux en cage. On trouve tous les animaux, il y a quoi comme type d'animaux ?
Alors, il n'y a effectivement pas du tout d'animaux en cage. Ce sont des grands espaces, des environnements qui ont été constitués dans des grands espaces très végétalisés qui permettent l'observation des animaux dans des très bonnes conditions. Parfois d'ailleurs, les animaux se cachent. On a à peu près 1000 animaux, on a à peu près 300 espèces. Des gros animaux, ça va être des éléphants d'Asie, des rhinocéros, des girafes, des hippopotames. Les hippopotames, par exemple, sont sur un étang de 3 hectares, une prairie d'un hectare, et bordés par des lodges sur pilotis qui permettent d'observer ces animaux à la tombée de la nuit de sa chambre. Voilà, donc on est sur des concepts très, on va dire, respectueux de l'environnement, du bien-être de l'animal.
Ok, alors bien-être de l'animal, on trouve quoi comme type d'animaux ?
Donc on trouve effectivement on voit à peu près 200 espèces, à peu près 1000 animaux. Donc on trouve les gros mammifères, hein, éléphants, girafes, hippopotames, tigres, lions d'Asie, voilà, tous ces animaux-là. On a une collection également, on a tout un éventail d'espèces de primates, des chimpanzés à des singes beaucoup plus petits, on a beaucoup d'oiseaux. Voilà, on a énormément de programmes pédagogiques. Et on a toute la partie, comme vous l'avez cité tout à l'heure, attraction, puisque nous sommes un vrai parc d'attraction, un vrai parc animalier, ce qui est unique en Europe.
Ouais, et ce qui est super, c'est le côté immersion chez vous. Vous parliez des lodges à l'instant. L'idée de ces lodges qui sont juste au bord de votre lac, c'est de pouvoir dormir comme si finalement on était au beau milieu de l'Afrique du Sud avec le son, le bruit des vrais animaux juste autour de nous.
Emmanuel,
je ne suis jamais allé, mais je suis allé sur le site internet et je trouve ça passionnant.
Absolument. Absolument. Donc les lodges, c'est la reconstitution, ce n'est pas un hôtel de parc. De même que le Savannah Reserve qu'on a ouvert cette année, ce sont des hébergements qu'on retrouve, le Savannah Reserve dans le Kruger Park, les lodges qu'on peut retrouver en Tanzanie, au Zimbabwe, au Botswana. Donc les lodges, c'est un campement avec le fonctionnement du campement. On appelle la réception, une voiture vient vous chercher. Vous avez un kilomètre entre la réception et le restaurant. Et vous êtes au milieu de la savane ou sur l'Afrique aquatique, sur l'eau avec des animaux tels que des pélicans, des hippopotames, beaucoup d'oiseaux, etc. Donc on est en immersion complète, l'objectif étant toujours à la fois de dépayser le visiteur, mais également de sensibiliser à la conservation de la biodiversité.
Alors qu'est-ce que vous prévoyez là pour cet été ? Parce que ça a bien évidemment été extrêmement compliqué pour vous aussi, bien évidemment, ces derniers mois. On a eu encore quelques petits bouleversements sur les mises en place des passes sanitaires ces derniers jours. Comment ça se présente chez vous ?
Alors, la saison 2020 avait enregistré, donc pour l'ensemble des parcs, les parcs avaient enregistré globalement une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires. Cette saison, avec 2 mois de retard en 2021, avait redémarré le 9 juin au lieu du 9 avril, avec une montée en puissance quasi instantanée, avec on voyait l'envie des familles de créer cette rupture avec le quotidien, de se retrouver pour partager ses émotions, ses sensations, à la fois de se divertir et puis d'apprendre aussi avec tous les programmes qu'on a mis en place pour sensibiliser le public à la conservation de la biodiversité. Et là, depuis hier soir, c'est la catastrophe, on va dire. On est toujours en discussion avec le gouvernement, mais l'instauration d'un pass sanitaire à partir du 21 juillet, pour nous, constitue une catastrophe absolument dramatique pour l'ensemble des parcs français, parce que voilà, on partage tous l'objectif et d'accélérer la campagne de vaccination. On aurait pu le faire en imposant le pass sanitaire à partir du 1er septembre ou du 15 décembre comme les infirmières, parce que faut quand même se dire que le premier lieu en France de contamination, c'est l'hôpital. Et là, on n'a jusqu'au 15 septembre pour se vacciner. Alors que dans les parcs, on veut l'imposer tout de suite, avec des achats qui sont spontanés. Les gens se décident le matin ou la veille ou l'avant-veille. Donc on comprend bien que sur une clientèle majoritairement jeune, non vaccinée, puisque non prioritaire jusqu'à présent, prévoir des tests alors qu'on ne prévoit pas la visite, c'est quasiment impossible. Donc pour nous, pour les parcs en France en général et pour le PAL en particulier, c'est le risque de perdre 70% de notre clientèle, avec en plus des difficultés de mise en œuvre, tester le personnel, etc. Donc le risque, c'est carrément sur beaucoup de sites la fermeture.
Justement, Solange Ascure, vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Vous êtes notre grand témoin du jour. Au niveau des gîtes, les protocoles sanitaires sont hyper stricts. J'imagine que vous avez mis en place une charte bien précise.
Oui, tout à fait. Dès l'année dernière, donc, et la fin du premier confinement, nous avons mis en place un protocole sanitaire qui a d'ailleurs été validé par le gouvernement, qui est appliqué par l'ensemble de nos propriétaires, mais également par l'ensemble des vacanciers.
Les professionnels du tourisme disent que les vacances cette année sont plus longues que d'habitude. On aurait gagné 2 à 3 jours en plus de réservations en France. Est-ce que c'est le cas également chez vous ?
Oui, nous l'avons constaté. On a des séjours plus longs. Donc des personnes qui veulent vraiment couper et qui réservent dans le même hébergement pour 3 voire 4 semaines. Alors, on reste encore sur un séjour moyen de 7 jours, hein, mais il y a une augmentation du nombre de longs séjours.
Oui. Mais c'est peut-être aussi une façon de tester. Peut-être peuvent-ils vivre à l'année dans ces gîtes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, depuis plusieurs mois, cherchent à changer de vie. Et ils se tournent parfois vers les maisons d'hôtes ou vers les gîtes de France. Vous avez eu des nouveaux membres ou des personnes qui vous ont sollicité pour vous dire « Mais moi, je veux faire partie de l'aventure
». Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il y a ce besoin de vivre au vert. Et donc, on a eu des porteurs de projets qui nous ont contactés pour nous préciser qu'ils souhaitaient eh bien, soit ouvrir une maison d'hôte, soit créer un gîte en rachetant tout un ensemble de bâtiments. Oui,
Qu'est-ce qu'il faut justement pour avoir le label gîte de France ?
Il faut tout simplement avoir déjà possédé un hébergement.
Et... oui, ça paraît logique. Ça, j'aurais trouvé tout ça, je crois.
Ensuite, avoir le désir d'accueillir chez soi ou en tout cas dans une maison qui appartient à la personne. Et puis, donc, il faut répondre à un cahier des charges, mais qui n'est jamais plus que le confort du quotidien, en fait. Hein. Et en fonction du classement, on va trouver des équipements de confort fonction du 1 à 5 épis.
Est-ce que ce sont comme pour les chambres d'hôtel, avec une taille minimale de chambres,
oui,
de mètres carrés, tout ça,
ça
répond au même type que pour les hôtels?
Alors, ce n'est pas les mêmes, sont en fait des critères de confort Gîtes de France, puisqu'on a un classement qui va de 1 à 5 épis. Et en plus on monte en gamme, en fait, plus le nombre d'équipements demandés. En 5 épis, par exemple, on va forcément trouver soit une piscine, soit un équipement de bien-être, soit...
Ce qui est impressionnant, c'est que vous nous disiez tout à l'heure, on est complètement record grâce aux Français, parce que j'imagine qu'il y a très peu d'étrangers. Alors, c'est une petite population traditionnellement chez vous, mais quand même, il y a des étrangers qui se sont habitués à venir profiter de la France grâce à vos hébergements, et vous faites quasiment sans eux, j'imagine, cet été.
Oui, tout à fait. On a beaucoup de clients habitués, hein, de vacanciers, notamment beaucoup de Belges ou de clients venant de Grande-Bretagne. Ou
des Néerlandais, j'imagine.
Des Pays-Bas, des Allemands... également, et en fonction notamment de la situation géographique de nos hébergements. C'est vrai que si on est dans les Hauts-de-France, on aura beaucoup plus de Belges. La même chose pour le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, avec beaucoup d'Allemands. Donc oui, cette année, cette clientèle, elle est très très faible dans nos hébergements et globalement en France. Et elle est compensée cette année par une clientèle franco-française.
Ouais, chez vous aussi, Arnaud Bennett, vous êtes le président du PAL. Chez vous aussi, la clientèle étrangère est très très rare.
Alors, nous sommes situés dans une région qui n'est pas une des plus touristiques, même si c'est une très très belle région.
Dans l'Allier, près de Moulins.
La région anciennement Auvergne et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, qui là par contre est la deuxième région touristique française. Traditionnellement, nous accueillons peu de clients étrangers, enfin de l'ordre de 5%. Depuis que nous avons mis en place et lancé ces hébergements immersifs qui sont totalement innovants et qui n'existent encore une fois dans cette forme d'authenticité nulle part ailleurs, on a une clientèle maintenant beaucoup plus nationale. Donc des visiteurs et des clients qui viennent de toute la France pour expérimenter ce séjour. Et puis beaucoup de Suisses, puisque nous sommes situés à 2h30 de Genève. Et les Suisses sont extrêmement friands de ces expériences très naturelles, très authentiques et très dépaysantes.
Solange Ascure, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. On parle de plus en plus également d'un allongement de la saison touristique. On sait que le mois de septembre, depuis quelques années, hein, est de plus en plus fort. voire le mois d'octobre, en tout cas jusqu'aux vacances de la Toussaint, où généralement ça marchait plutôt bien. Est-ce que là aussi, vous voyez pas mal de gens qui se disent « Bon allez, on va au moins prendre début septembre parce qu'on peut peut-être encore réussir à passer ».
Oui, alors même, je dirais plus qu'au-delà de la saison touristique, maintenant c'est une année touristique, parce qu'en fait elle est marquée par toutes les vacances scolaires, par les longs week-ends. Donc on a, les Français partent régulièrement sur des séjours qui jusque-là étaient plus courts, mais plus souvent. Donc on a une vraie année touristique, et effectivement avec une forte saison de juin à fin septembre, mais oui, beaucoup de séjours en juin, beaucoup de séjours en septembre aussi.
Et si vous n'avez pas encore choisi votre destination, on vous propose d'aller au PAL, PAL. Merci à vous Arnaud Bennett, le PAL est situé dans l'Allier près de Moulins.
Merci à vous, merci beaucoup, c'est... et je vous accueille quand vous voulez.
Avec plaisir.
On va aller faire une émission spéciale
allez,
là-bas.
On fera une délocalisation l'année prochaine, pour la saison prochaine, pour faire le bilan de cet été. Je suis sûre que ça va très bien se passer, merci à vous.
Avant de partir au PAL, Solange Escure, vous restez encore avec nous jusqu'à 14h. Vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
C'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Solange Escure, qui est la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Et bien évidemment, nous allons être rejoints par l'indispensable Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et encore une bonne idée dans La France bouge, aujourd'hui lancée il y a seulement un mois. Bonjour Ludivine Romary.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, vous êtes bordelaise et vous avez inventé un bracelet que vous portez là en ce moment. D'abord, je tiens à vous dire qu'il est très joli, esthétiquement parlant, il est magnifique. Il est un peu en métal, avec un petit dôme au milieu, il est très joli. Mais ce bracelet n'est pas un bracelet comme les autres parce qu'il alerte, il protège et il sécurise la personne en danger. Vous avez eu cette idée pendant vos études, vous allez nous en dire plus. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Oui, donc Maïli a été créée pendant mes études en école de commerce en 2018. Et puis le projet a vu le jour récemment. Maïli, concrètement, c'est une solution de sécurité au quotidien. Il nous accompagne dans tous nos déplacements, que ce soit transport en commun, que ce soit des problèmes type d'harcèlement de rue, mais aussi de violence conjugale et plein d'autres usages qu'on a découverts il n'y a pas longtemps suite à beaucoup de demandes. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche concrètement ? Lorsqu'on est en danger, dans une situation notamment d'agression, on clique. Un clic sur le bijou envoie sa position GPS avec son suivi GPS via un SMS et un appel de secours à ses contacts de secours qui sont programmables dans l'application mobile qui va donc avec. On est connecté en Bluetooth avec le smartphone. De ça, on peut déclencher deux options que l'utilisateur programme lui-même en fonction de son besoin, soit une alarme sonore pour repousser l'agression et ou un enregistrement audio pour capter la situation d'agression, et le double clic pour répondre à la problématique de départ. C'est-à-dire comment rassurer ses proches qu'on est bien rentré. Je clique, je rassure.
C'est fou ça, parce que juste en double-cliquant, ça enregistre la conversation.
Alors ça enregistre l'audio via le téléphone.
D'accord, via le téléphone.
Et quand on envoie un SMS, c'est quoi ? C'est un message pré-écrit ? Il y a écrit quoi dessus ?
Personnalisé. Vous mettez ce que vous voulez dedans.
Attention.
Mais vous l'avez décidé avant, oui.
Oui, voilà, vous l'enregistrez dans l'application. Mmh. Et vous pouvez le modifier à tout moment en fonction de la soirée, je ne sais pas avec qui vous passez.
Bien sûr. Ah oui, on peut changer en plus. Oui, il faut y penser ça en revanche.
Le prix, Emmanuel.
Bah oui, c'est ça. Alors, attendez, j'étais en train de vérifier ma fiche. 85 et 90 euros. Mais je crois que s'il y a même un modèle un peu plus cher, mais vous dites qu'il est plus esthétique. Alors,
celui
qui
est beau là, le laiton.
Oui,
désolé,
j'adore. Celui en laiton doré, il est magnifique. On dirait une petite montre ancienne. Parce qu'il est mi-jonc, mi-chêne, si on peut dire ça comme ça. Donc il est un petit peu plus travaillé. Puis on aura aussi quelque chose pour les hommes d'ici la fin de l'année, pour les enfants. Puis on a aussi beaucoup de demandes des personnes âgées. Ou des personnes malades, des crises d'épilepsie, etc.
C'est génial. J'adore votre projet. Nathalie Carré, bonjour.
Bonjour,
vous avez
Elisabeth.
Un avis,
bonjour,
la chef a dit que c'était génial. Hein.
Ben voilà, c'est fait.
Non,
c'est
mais fait, pas mais du tout. Moi, je ne connais pas le business. C'est surtout vous, Nathalie, qui allez tout nous dire, nous donner des idées. Quelles sont les forces et les faiblesses de Maïli, Nathalie Carré, qui est donc en charge de l'entrepreneuriat à la CCI, donc qui s'y connaît.
Qu'est-ce qu'on dit sur les forces ? C'est discret, c'est joli, c'est tout simple. Fallait penser, un clic, je suis en danger, deux clics, tout va bien. On peut effectivement tout personnaliser en fonction de ses soirées, etc. Et puis le prix, 85 euros pour sa sécurité ou 90, c'est plutôt bon marché malgré tout. Alors, En fait, il manque quand même, vous venez de le dire, il y a plein de cas d'usage. Donc la solution a vraiment l'air super, mais pour que les internautes passent plus facilement à l'achat, il faut rentrer dans le concret. Donc concrètement, expliquez sur votre site internet comment ça se passe. Par exemple, j'offre ce bracelet à ma nièce de 17 ans, qui vit encore chez papa-maman. Donc elle met papa-maman en contact normalement. Elle sort, les parents sont informés puisqu'elle vit chez eux. Bon, elle a un souci, elle clique, papa-maman sont informés et ils préviennent qui ? La police, mais qui fait quoi ? Qui déclenche l'alarme ? Est-ce qu'elle peut le faire ? Autre cas d'usage, je l'offre à ma copine de 35 ans qui vit seule. Elle sort, elle a passé l'âge de prévenir ses amis de sa sortie. D'autant qu'elle n'a jamais eu de souci. Mais comme on ne sait jamais, elle porte votre bracelet. Elle a un souci. Son alerte est envoyée à 5 amis, par exemple. Comment ça se passe ? Les 5 amis appellent la police, la rappellent, se déplacent s'ils peuvent. Est-ce qu'il y a un espèce de « ok, je gère » pour s'assurer qu'il y a bien quelqu'un quand même qui a eu le message et qui agit ? Parce que les 5 potes... Ils peuvent ne pas avoir le message, par exemple. Donc, mettez, et vous l'avez dit, pour les enfants, pour les personnes âgées, etc., il y a plein de cas d'usage. Donc, mettez-en autant que possible parce que ça va vraiment pousser les achats et puis parce que c'est ça, ça augmente le référencement. Et puis, du coup, ça va vachement rassurer sur la technologie que vous utilisez.
Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la première question... Effectivement, donc dedans, par rapport au type d'usage, nous, on a lancé une campagne de crowdfunding récemment pour nous aider un petit peu dans le développement. Et c'est là où on a eu énormément de demandes pour les enfants, pour les hommes, parce que c'est très important aussi d'amener une sécurité pour tous. Effectivement, on essaie de le mettre en avant au fur et à mesure, mais on est dans le début, on commercialise au mois de novembre. Donc, je trouve que là, je veux apporter cette solution contre l'insécurité qu'on a surtout dans nos rues, où on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Donc, premièrement. Ensuite, au niveau de la technologie, là, par exemple, on est sur du Bluetooth. On va l'évoluer. Le but, à long terme, c'est de créer quelque chose de totalement indépendant qui ne fonctionnera plus avec le téléphone. Pareil au niveau
ah oui,
de...
c'est bien ça aussi, parce qu'on peut ne plus avoir de batterie en rentrant
exactement.
De soirée ou un truc comme ça.
C'est un peu la limite
du téléphone. L'idée, c'est d'avoir une petite puce dans
qui
votre...
Qui soit autonome 100%.
Ah, tout à fait.
Et c'est pour quand ça alors ? Parce qu'en même temps, ça fait un mois d'existence. Donc là, on a l'impression que ça fait 54 ans déjà que vous êtes lancé.
Non, ça sera, je pense, on va se laisser un an. C'est quand même un nouvel usage. Il faut le laisser...
Déjà, il faut qu'on se l'approprie.
Voilà, exactement. Il faut comprendre comment ça marche. Même pour les enfants, il nous faut quelque chose, je pense, pour multi-cibles également. Ça sera plus pour un an et demi, deux ans. On a quand même un gros programme de R&D à instaurer là-dessus.
Quand vous dites « on est », vous êtes avec
on
combien ?
On est plusieurs. Oui, moi, je travaille en binôme avec mon associé qui est le CTO, donc ingénieur électronique, spécialisé sur l'IoT, donc sur tout ce qui est système embarqué.
Mais là, il vous faut quoi ? Il vous faut plein de sous, du coup, maintenant ? Vous faites la rénovée de fonds, c'est ça ?
Il nous faut plein de sous, mais il nous faut surtout une très bonne équipe. Et il faut suivre les technologies de demain. On parle
et
beaucoup de
5G. Quand vous dites qu'il nous faut plein de sous, parce que, attendez, soyez concrète. Oui, s'il y a des gens qui sont en train de vous écouter, qui ont des sous et qui ont envie d'investir, il vous faut combien ?
Typiquement, pour se lancer, nous, pour mettre ça sur le marché et proposer cette solution à tout le monde, on a un besoin de 200 000 euros.
Voilà. 200 000 euros.
En 2021.
Vous nous écoutez ? 200 000 euros. Ludivine a besoin de 200 000 euros. Le circuit de distribution, vous y avez déjà réfléchi ?
Oui, bien sûr. Là, on est en train de construire le circuit de distribution de Maïli au niveau national. Et puis, on a aussi quelque chose qui va arriver à l'international rapidement. On veut être aussi présent dans les pharmacies parce que je pense que cette solution s'adresse aussi aux femmes victimes de violences. Peut-être qu'on a plus de possibilités d'aller s'acheter un tel bijou pour sa sécurité dans une pharmacie parce qu'on aura peut-être plus la possibilité d'aller en pharmacie que dans un magasin.
Ou dans un supermarché. Hein.
Ou dans un supermarché, exactement. Mais également dans des relais aussi de distribution un peu plus tech parce qu'on est sur les deux.
Technologie.
Sur le bijou, sur le connecté.
Solange Escure, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Vous nous accompagnez depuis le début de cette émission. Vous en pensez quoi ?
Je trouve que c'est une excellente idée. C'est à la fois très joli, utile et c'est un beau projet, très très beau projet.
Voilà. Donc vous validez à 100%.
Je valide.
Merci à vous Ludivine Romary. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de My Eli, un bijou très joli, je le précise, connecté, anti-agression. Vous reviendrez nous dire comment s'est passée cette levée de fonds. On va vous suivre attentivement à La France Bouge.
Et Nathalie Carré, on vous retrouvera bien évidemment dès demain. Si vous aussi, vous avez comme ça un projet d'entreprise, eh bien il vous suffit de nous écrire. e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis, on lit tous les mails et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France Bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission, toujours avec Solange Escure, la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France.
Et Europe 1 soutient les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Déjà plus de 35 000 offres à retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Et parmi les jobs à pourvoir, il y a les vôtres. Philippe Bloquet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le PDG de PeopleSphere. C'est une entreprise spécialisée dans le digital. Vous êtes basé à Montpellier ainsi qu'à Paris, 70 salariés. Et si vous êtes dans la France Bouge aujourd'hui, c'est parce que vous avez dans votre sac une vingtaine de postes à pourvoir. Quel type de postes ?
Alors, effectivement, pour accompagner notre croissance, nous avons des postes à peu près dans tous les domaines. Mais j'en citerai trois principalement. Le domaine technologique, donc tout ce qui est développement logiciel, la partie commerciale et ce qu'on appelle chez nous les opérations, c'est-à-dire les personnes qui sont en contact avec les clients.
Et vous cherchez...
Sur la partie commerciale.
Oui, allez-y, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Sur la partie commerciale.
Oui, sur la partie commerciale, on cherche aujourd'hui plutôt des commerciaux seniors ayant une expérience de 5 à 10 ans dans le domaine de la vente de solutions SaaS. Principalement basé à Paris ou basé à Montpellier.
Alors, tout ça, c'est important. Vous cherchez des gens qui ont plutôt de l'expérience pour tout ce qui peut être recherche et développement, mais pour les commerciaux, et c'est ça qui nous intéresse aussi à la France Bouge, là, on est sur des juniors que vous pouvez former.
Alors, on a effectivement, chez nous, on a un processus de formation qui est assez classique, qui commence par effectivement ce qu'on appellerait l'outbound, c'est-à-dire les commerciaux juniors commencent à faire de l'appel, de la chasse de compte, et ensuite, petit à petit, ils vont aller vers... la prise en compte de comptes un peu plus gros jusqu'à l'expertise de senior sales chez nous, qui vont gérer des sociétés donc, qui sont de plusieurs milliers de collaborateurs.
Alors, on le disait, vous êtes à Montpellier et à Paris, vous recrutez sur les deux pôles ?
Tout à fait, indifféremment sur les deux pôles, absolument. Nous avons déjà des équipes commerciales en place sur Montpellier et Paris.
Est-ce qu'il y a des profils qui
des
vont...
Qualités,
des qualités,
soft skills,
comme on dit.
Comme vous aimez dire, Elisabeth.
Oui, des qualités personnelles qui sont importantes pour vous pour pouvoir intégrer votre entreprise. Parce que parfois, on entend des entrepreneurs, il ne suffit pas forcément d'avoir des compétences, un CV. Il y a peut-être un petit quelque chose en plus qui pourrait faire la différence chez PeopleSphere.
Oui, en particulier, de fait de notre business model un peu particulier de plateforme, on aime bien des gens qui sont débrouillards, entrepreneurs eux-mêmes, puisque chaque projet client est un projet spécifique, à la différence d'un logiciel SaaS. Chaque projet est une aventure, chaque projet est une co-construction avec le client. Donc, c'est des gens qui ont cet esprit dans l'âme, cet esprit d'aller co-construire avec leurs prospects une solution qui leur convient. Des gens qui sont très orientés digital, ça c'est extrêmement important.
Donc on est un peu un esprit très autonome dans ce qu'on entend.
Oui, on parle parfois d'intrapreneurs ou
c'est
de choses comme ça.
Ça revient systématiquement ça en ce moment.
Tout à fait, c'est clair.
Des personnes qui ont cet esprit d'entreprendre. Solange Escure, vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France, vous êtes notre grand témoin du jour. Vous recrutez aux Gîtes de France cette année ?
Alors, il y a des recrutements dans tous les départements, oui, régulièrement, tout à fait.
Là, par exemple, à moyen terme, vous recherchez quel type de profil ?
Alors, nous cherchons des profils de commerciaux pour le terrain, pour développer des hébergements, également des commerciaux pour la vente. Donc, oui, il y a des...
Vous dites pour développer des hébergements, c'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher les gens en disant « Tiens, là, vous avez un joli bâtiment, vous devriez nous le louer à nous et le mettre en exclusivité Gîtes de France
?» C'est ça, c'est un peu ça, oui, bien sûr.
Je pensais que c'était que les gens qui venaient à vous.
Non, il y a... En fait, on a des demandes spontanées, mais aussi on prospecte, bien sûr, oui, oui.
C'est important pour faire développer l'activité.
On en apprend tous les jours.
Les annonces et pour PeopleSphere sont à retrouver, bien évidemment, sur europe1.fr, sur notre carte.
Et sur Welcome to the Jungle.
Interactive par région, mais aussi sur Welcome to the Jungle. Merci à vous Philippe Bloquet, PDG de PeopleSphere. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous Solange Escure, vous êtes la directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Je rappelle, un été record pour les Gîtes de France avec un taux d'occupation à plus de 80%. On vous félicite et bravo à vous.
Merci. Et on fera du sport demain. On sera avec le patron de Fitness Park,
qui
est le plus
gros
réseau de salles de sport. Bah oui, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait grand-chose. Demain, allez hop, toutou youtou sur Europe 1.
Allez,
demain.
À demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.